Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Le pape François sera ce dimanche à Castel Gandolfo, rencontre avec le personnel des villas pontificales et récitation de la prière de l'Angélus avant un déjeuner avec les jésuites de l'Observatoire astronomique du Vatican. Et puis c'est ce dimanche, le dimanche de la mer, un message a été publié par le Vatican pour prendre conscience du travail des marins dans un contexte d'une flotte mondialisée. Nous sommes de plus en plus proches des JMJ de Rio de Janeiro. Le père Éric Jacquinet porte depuis des mois ce dossier des JMJ depuis son bureau du Conseil pontifical pour les laïcs. Ce prêtre a déjà été l'organisateur des JMJ de Madrid en 2011, Rencontre. Nous retrouverons ensuite Sœur Catherine Aubin et son livre pour Dieu, une rediffusion estivale avec Si je dis credo, le dernier livre de Maurice Bellé. Enfin, le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Montavi. Le pape François passera donc une bonne partie de ce dimanche 14 juillet à Castel Gandolfo, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome où se trouve la résidence estivale des papes. Le point d'orgue de ce déplacement sera la prière de l'Angélus qu'il récitera depuis le palais apostolique. À 9h30, le pape arrivera à la demeure pontificale où l'attendra le personnel, emmené par le directeur, Saverio Petrillo. Seront également présents le maire du village et l'évêque d'Albano. La rencontre s'achèvera donc par une allocution du Saint-Père. Et puis à midi, depuis le grand portail du palais apostolique qui donne sur la place principale du village de Castel Gandolfo, le pape François récitera la prière de l'Angélus et adressera quelques mots aux fidèles venus le voir. On attend, paraît-il, quelques 20 000 personnes. Le pape déjeunera ensuite avec les membres de l'Observatoire astronomique du Vatican, des jésuites comme lui, dont les locaux se trouvent en bas du grand parc des villas pontificales. Et puis, il rentrera au Vatican. Il faut savoir qu'il s'agit du second déplacement du pape François à Castel Gandolfo. Il s'y était rendu en effet le 23 mars pour rencontrer Benoît XVI, qui y séjournait encore dans l'attente que les travaux du monastère qu'il occupe actuellement au Vatican soit achevé, mais c'est la première fois, bien sûr, qu'il prendra la parole en public depuis le palais apostolique de Castel Gandolfo. C'est donc ce dimanche, le dimanche de la mer, le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement a publié un message pour l'occasion. Il s'agit d'inviter les chrétiens à prendre conscience et à reconnaître le travail des 1 500 000 marins environ qui naviguent dans le cadre d'une flotte internationale mondialisée. Des précisions avec Marie Duhamel.
Vogue sur les océans et les mers, quelques 100 000 navires transportant 90% des biens manufacturés. Or, ce monde de la mer doit aujourd'hui tenir compte des effets complexes de la mondialisation, malheureusement aussi affronter des situations d'injustice. En novembre dernier, lors du congrès mondial de l'apostolat de la mer, Benoît XVI évoquait la vulnérabilité des marins. Monseigneur Velio revient aujourd'hui sur ces conditions de travail difficiles. Ils passent des mois entiers loin de leurs proches, peuvent faire l'expérience de l'abandon dans des ports étrangers, sans salaire, de la criminalité, des catastrophes naturelle ou du piratage. Il y a cependant une lueur d'espoir dans la nuit obscure. Au mois d'août, la Convention sur le travail maritime de l'OIT entrera en vigueur, l'objet d'années de discussions. Ce texte, ratifié par 30 pays, établit des conditions minimales, emploi équitable, soins médicaux, protection, sécurité sociale, conditions de bien-être à terre. À ce sujet précis, le dicaster affirme qu'il restera vigilant. Il faut selon lui développer les infrastructures existantes, encourager les autorités portuaires à mettre en place un système de taxes pour les financer. Enfin, informer les marins de leurs droits, c'est aussi notre responsabilité si nous voulons des changements réels, conclut Mgr Velio.
Le compte à rebours est lancé avant le lancement officiel des 28e JMJ le 22 juillet prochain à Rio. 2,5 millions de pèlerins venus des quatre coins du monde sont attendus. Parmi eux, 5 500 jeunes Français iront à Rio. Ces pèlerins seront accompagnés par 25 évêques, dont 8 présents pour les catéchèses. Une quarantaine de diocèses brésiliens attendent les jeunes pour la semaine missionnaire du 15 au 22 juillet, dont un au Venezuela et un autre en Guyane. Les diocèses d'accueil se situent principalement dans les régions du nord-est et du sud-est du Brésil. Un pèlerinage qui s'inscrit dans un contexte socialement tendu, on le sait, depuis un mois maintenant, le pays est secoué par des manifestations contre la corruption et les coûts exorbitants liés à l'organisation du mondial de football l'an prochain. Le père Éric Jacquinet porte depuis des mois ce dossier des JMJ de Rio depuis son bureau du Conseil pontifical pour les laïcs et ce prêtre a été déjà l'organisateur, on le sait, des JMJ de Madrid, c'était en 2011. Il rappelle que le pape François va effectivement prendre en compte dans ses différentes allocutions la souffrance du peuple brésilien et la situation sociale, mais il insiste sur l'immense expérience de foi pour tous ces jeunes dans un contexte particulier, le christianisme latino-américain. Écoutons-le, interrogé par Olivier Tosseri, qui sera notre envoyé spécial pour ce voyage du pape François au Brésil.
On n'est pas encore dans le point des bilans, mais on peut dire qu'il y a déjà une vraie mobilisation dans le monde entier pour les JMJ, puisqu'on a des jeunes de plus de 170 pays qui sont inscrits, et puis une vraie mobilisation dans l'ensemble du Brésil, et déjà en soi, c'est une très belle chose, d'autant que la préparation des JMJ s'est faite dans l'ensemble du Brésil par le pèlerinage de la croix et de l'image de la Vierge Marie, qui vraiment a suscité un grand enthousiasme. Et donc on sait qu'il y aura une grosse réponse de la part du pays complet. Donc d'emblée, on sait que c'est un succès, au sens où c'est un événement qui va être important. En plus, dans le contexte actuel, où visiblement il y a l'attente d'une parole d'encouragement de la part du pape. On a un peuple extrêmement religieux qui va accueillir le Saint-Père. Et puis un peuple qui a un enthousiasme de la foi.
Est-ce qu'il y a justement une particularité à cette foi, à cette religiosité sud-américaine ?
Ce qui nous marque, c'est effectivement le dynamisme missionnaire. On a un vrai dynamisme missionnaire dans l'ensemble du Brésil, en particulier par l'émergence de nombreux groupes, mouvements, communautés nouvelles. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que le thème de la JMJ est un appel à l'évangélisation, aller de toute une nation à faire des disciples, parce qu'on voit qu'on est dans une logique missionnaire qui a été impulsée depuis quelques années, en particulier par les évêques. La conférence d'Aparecida du CELAM de 2007 avait parlé de mission continentale. Donc on peut penser qu'une des caractéristiques, ce sera effectivement cette dynamique missionnaire qui va marquer les jeunes d'autres pays qui vont venir rejoindre les différents diocèses dans les journées préliminaires, qui sont d'ailleurs appelées des journées missionnaires, avant de rejoindre Rio.
Dimension missionnaire, est-ce qu'il y aura aussi, j'imagine, une dimension sociale forte avec la situation actuelle du Brésil ?
Alors effectivement, le contexte actuel de difficulté sociale fait qu'il y aura une note sociale, mais qui fait partie de toute façon de la culture ecclésiale au Brésil. Et ce qui est assez beau, c'est qu'au Brésil, on peut penser qu'il y a une forme de réconciliation actuellement entre des catholiques très engagés dans le social et des catholiques très engagés dans la dimension de nouvelle évangélisation, d'annonce explicite. Alors qu'on constatait une forme de fracture entre ces deux groupes de personnes, on pensait que la JMJ est l'occasion pour tous de servir ensemble et d'annoncer le Christ Sauveur et de servir les plus pauvres.
On sait également que même si le Brésil est un pays très religieux, le catholicisme est en perte de vitesse, concurrencé par d'autres fois. Est-ce que les JMJ, c'est aussi l'occasion de redynamiser le catholicisme sud-américain en général et brésilien en particulier ?
C'est sûr que les JMJ remettent en route des tas de choses dans l'ordre de la pastorale des jeunes et dans la vie de l'Église. On le sait dans l'histoire de la JMJ que la plupart du temps, la JMJ a permis d'impulser des nouvelles dynamiques missionnaires, en particulier destinées aux jeunes. Donc on peut penser, et on le voit déjà, que la JMJ remobilise des tas de personnes et puis de toute façon manifeste en elle-même la beauté de l'Église. C'est toujours un événement en soi, pas seulement au niveau médiatique, mais au niveau de l'expérience, de voir la beauté de l'Église. Et on peut penser que du coup, ça contribue à la croissance de l'Église catholique, ça contribuera à la croissance de l'Église catholique au Brésil.
C'est le premier voyage officiel du pape François, un pape François qui s'est régulièrement adressé aux jeunes depuis son élection. Quel est le rapport qu'il entretient avec la jeunesse et quel message peut-il lui délivrer ?
On peut penser que c'est un pape qui est, comme ses deux prédécesseurs, très attentif aux jeunes, et dans un style à lui qui parfois rappelle le style de Jean-Paul II, un style extrêmement direct, qui est capable d'interpeller les jeunes en direct, il l'a fait dans plusieurs occasions récemment. Et donc on peut penser qu'il aura effectivement non seulement un contact avec les jeunes, mais une parole forte. Je ne sais pas s'il parlera uniquement en portugais ou s'il fera quelques improvisations en espagnol, mais on peut penser qu'effectivement, il va avoir une parole forte pour les jeunes.
Beaucoup de jeunes viendront de pays très fortement sécularisés, des pays européens. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver en Amérique du Sud, au Brésil, pour pouvoir redynamiser leur foi ?
Comme toujours, les JMJ sont l'occasion pour des jeunes de pays sécularisés ou de pays où ils sont en minorité, comme chrétiens, de découvrir, d'une part, l'identité chrétienne. Être chrétien, c'est ça. Dans l'esprit de Jean-Paul II, la JMJ contribue à redonner une image claire, une identité claire aux jeunes catholiques. Et d'autre part, de montrer la dimension publique de la foi. Alors que dans nos pays sécularisés, la tendance, c'est de privatiser la foi. On l'a vu à Paris en 97, la JMJ décomplexe les jeunes catholiques en leur permettant de vivre de façon publique leur foi. Et les Brésiliens vont nous donner quelque chose de cet ordre-là, en nous montrant la joie de l'expression publique de notre appartenance au Christ. Très, très vraisemblablement, ça va être un feu qui va se communiquer à tous les jeunes de pays sécularisés.
C'est une JMJ, celle de Rio, qui s'inscrit dans la lignée des 27 précédentes, ou bien elle a vraiment une particularité propre et elle rompt un peu avec les JMJ précédentes?
Non, elle est effectivement dans l'esprit des JMJ précédentes, en soulignant cette fois-ci la dimension missionnaire, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est clairement orientée vers la mission, et ce qui tombe bien, puisque c'est un thème qui est très cher au pape François, quand il dit régulièrement qu'il nous faut sortir pour aller aux périphéries, ça correspond à un de ses sujets prioritaires, et donc l'accent missionnaire sera sans doute une des caractéristiques. Le reste, nous le verrons sur place. Parfois, la spécificité se découvre sur place, dans l'expérience.
Retrouvons à présent Sœur Catherine Aubin pour une rediffusion estivale de ses livres pour Dieu. Si je dis credo, le titre du dernier livre de Maurice Bellet, 89 ans, jésuite et psychanalyste. Interrogé par Catherine Aubin, Maurice Bellet nous présente trois principes pour entendre ce que nous disons quand nous disons le credo. Le principe évangile, le principe de signification et le principe de relation. C'est ainsi que ce travail sur le credo permet d'accepter que le credo interroge. Car ce qui importe, écrit Maurice Bellet, c'est d'entendre le credo dans sa signification possible aujourd'hui, à hauteur de ce qu'il prétend dire. Maurice Bellet est prêtre et psychanalyste, théologien et philosophe. Son œuvre est considérable. Nous l'écoutons interrogé par Catherine Aubin.
Maurice Bellet, le titre de votre dernier livre, « Si je dis credo ». Dans ce livre, vous écrivez « Le credo paraît opérer séparation. Il n'est même pas question d'amour dans le credo, ni de la vie, ni de l'enseignement de Jésus. » Vous pouvez nous expliquer ?
C'est vrai que c'est paradoxal, que cette absence dans le credo peut interroger, d'autant plus que pour pas mal de chrétiens, eh bien, le cœur de l'Évangile, ça serait justement une éthique de la fraternité, de la bienveillance, de l'amour du prochain, etc. Or, il n'y a pas un mot là-dessus, donc je crois en Dieu. Alors, ça m'a posé question et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut assumer ça? Alors, c'est là qu'intervient pour moi ce que j'ai appelé le principe Évangile, c'est-à-dire que le « je crois en Dieu » ne peut être qu'une manière de répondre à l'Évangile et une manière d'y adhérer. Mais adhérer à quoi? Alors, je crois que l'absence de morale dans le credo pourrait signifier ceci, c'est que le credo nous déploie les dons de Dieu. Ce que le credo dit à travers le Dieu Père, à travers le Christ qui vient parmi nous, à travers la résurrection, à travers l'Église, ce que le Dieu dit, c'est en quelque sorte le déploiement de l'amour de Dieu pour nous. Or ça, c'est très important. Ce qui est premier, c'est l'amour dont Dieu nous aime. Ce qui est premier, c'est la grâce. Et je pense qu'il y a une façon d'entendre le credo qui libère quand même de pas mal d'obscurité, c'est d'entendre le credo comme la description de la générosité divine envers nous.
C'est ce que vous dites, il me semble, à la page 42, quand vous dites « entendre le credo dans sa signification possible aujourd'hui, à hauteur de ce qu'il prétend dire. »
Voilà. Alors ça, c'est mon premier principe, si je puis dire, de lecture, c'est le principe évangile. Et le deuxième, c'est le principe de signification, c'est-à-dire, je dois, autant qu'il m'est donné, autant que je puis, entendre les paroles du « je crois en Dieu » comme prenant sens, prenant vie, prenant force dans mon existence. Et dans mon existence, pas par exemple simplement sous l'angle dit religieux, comme si ailleurs il y avait la vie réelle, si j'ose ainsi m'exprimer. Non, vraiment pour les questions fondamentales de l'existence, quand je dis par exemple que Dieu est tout-puissant, la toute-puissance divine doit me délivrer des fausses toute-puissances qui viennent de l'idéologie, qui viennent du système économique dans lequel nous sommes. La toute-puissance de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, me délivre de la puissance des idoles. Et si par idole, je n'entends pas simplement des reliefs du passé, mais ce qui fonctionne aujourd'hui à travers l'argent, le sexe, le pouvoir, etc., Ah, ben ça prend un sens très vigoureux dans l'existence. Ça, c'est ce principe, je crois, qu'on doit appliquer autant qu'on peut, en sachant que la signification qu'on pourra trouver au « je crois en Dieu » ne sera jamais à la hauteur, à la pleine hauteur de ce que dit l'Évangile. Enfin, ça introduit le troisième principe que je dis, principe de relation, c'est-à-dire je dois avoir envers la parole de Dieu qui se manifeste dans une parole humaine, qui est celle de Jésus, et dans la parole des apôtres, le même genre de respect et d'attention que j'ai envers la parole d'autrui. Parce que quand autrui me parle, je n'ai pas la prétention de comprendre d'avance et de juger ce qu'il dit simplement par mes propres pensées. Même un bon thérapeute est quelqu'un qui est prêt à entendre ce qu'il ne comprend pas. Et donc, je dois avoir ce respect envers la parole de Dieu, dont le credo se fait l'écho, d'attendre et d'espérer qu'elle prenne vie pour moi. Alors, avec ces trois attitudes-là, l'évangile au principe, la signification réelle dans mon existence et le respect d'une parole qui reste autre, je crois qu'il y a moyen d'aborder le credo, non pas en faisant disparaître toutes les questions, mais en n'étant pas d'emblée dans un certain malaise.
Et place à présent au commentaire de l'évangile de ce dimanche. Le père Pascal Montavi nous propose son commentaire de ce 15e dimanche du temps ordinaire. Évangile selon saint Luc 10, 25, 37. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?
L'évangile de ce jour propose un enseignement important sur la mission que Jésus a accomplie auprès des hommes et sur les commandements que nous sommes appelés à mettre en pratique. Un docteur de la loi demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir part à la vie éternelle. Invité à répondre lui-même à sa demande, il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. » Jésus reconnaît la justesse de cette réponse. Ce double commandement est déjà présent dans l'Ancien Testament. Aimer Dieu et son prochain, ces deux réalités sont inséparables. Toutefois, avec la venue de Jésus parmi les hommes, cette double exigence reçoit une lumière nouvelle. L'évangéliste saint Jean, de son côté, nous apprend que cet amour de Dieu, de tout son être et du prochain comme soi-même, prend désormais une forme nouvelle que Jésus résume ainsi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est donc plus question d'aimer l'autre comme soi-même, mais d'aimer l'autre comme Jésus lui-même a aimé. Or Jésus s'est livré sur la croix, il est mort pour chacun de nous. Le Nouveau Testament est bien plus exigeant que l'Ancien. Il s'agit cependant de bien comprendre cet enseignement. Jésus est mort sur la croix une fois pour toutes et pour tous les hommes. Les hommes sont donc sauvés. Ce n'est pas à nous de revêtir le rôle du Sauveur. Nous sommes simplement appelés à imiter le Christ tout en restant à notre place dans la condition du disciple qui est lui-même sauvé par Jésus. Nous sommes appelés à être témoins du salut que Jésus nous a acquis. Pour mieux comprendre la nouveauté du commandement d'amour et l'imitation de Jésus à laquelle nous sommes appelés, l'évangéliste Luc, quant à lui, propose la parabole du bon samaritain. Les pères de l'Église ont souvent reconnu Jésus sous les traits du bon samaritain. Voyons cela plus en détail. Dans cette parabole, Jésus n'est ni le prêtre, ni le lévite, mais le samaritain. Il n'occupe donc pas une position de pouvoir, de reconnaissance sociale, mais il fait partie d'un peuple méprisé par les Juifs de Jérusalem. Le prêtre et le lévite ont peur de se souiller, de devenir impurs, s'ils approchent d'un homme à terre qui pourrait bien être mort. Le contact avec un cadavre rend en effet impur. Le Samaritain, lui, est en voyage, tout comme Jésus au milieu des hommes. Il a quitté son père pour prendre chair de la Vierge Marie. Le Samaritain voit l'homme blessé et est saisi de pitié, tout comme Jésus devant les foules sans berger. Le Samaritain s'approche, panse les plaies et y verse de l'huile et du vin, tout comme Jésus qui guérit les malades. Le vin peut aussi préfigurer le sang du Christ par lequel nous recevons la vie éternelle. Le Samaritain conduit l'homme blessé à l'aubergiste et lui remet 2 pièces d'argent pour les soins qu'il lui prodiguera. De même, Jésus nous a rachetés du péché afin de nous offrir à son Père. Jésus termine la parabole du bon Samaritain en s'adressant au docteur de la loi. Il lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Bien sûr, Dieu seul sauve. Mais nous sommes appelés à être témoins de ce salut en prenant soin, nous aussi, de ceux qui sont blessés et qui attendent notre aide.
Ainsi prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. On se retrouve demain, où que vous soyez.